Bonsoir à tous, vous êtes sur LNFM et on se retrouve pour la Clé des Champs, l'émission de la communauté de communes Onis-Sud qui vous emmène explorer les richesses culturelles à découvrir sur notre beau territoire. Au programme de l'émission aujourd'hui, nous partirons à la rencontre de Nathalie Bernard, autrice jeunesse que Julie a rencontrée dans le cadre de la mise en voie de son roman Sauvage. Nous explorerons son parcours, ses inspirations et elle nous expliquera comment elle donne vie à ses histoires. Ensuite, plongeons au cœur de la compagnie Lorée du Bois. Après 3 semaines de résidence artistique, la compagnie a présenté une comédie baroque et saugrenue le 28 mars dernier, rythmée de claquettes, de sangliers et de châtiments. Héloïse a vécu cette aventure, elle nous racontera tout. Nous poursuivrons avec notre zoom et aujourd'hui c'est le comptoir local qui viendra nous présenter cet acteur incontournable du territoire. Pour cela, nous recevrons Marie Chouk, chargée de communication à l'office de tourisme Onis Marais Poitevin. Enfin, nous terminerons avec l'agenda de vos sorties pour les semaines à venir avec Renaud. Et il y aura de quoi faire, alors je vous conseille de rester à l'écoute, mais sans plus tarder, on commence avec Julie et son interview.
Bonjour Nathalie Bernard.
Bonjour.
Nous vous avons invité dans le cadre de votre venue au sein des bibliothèques du réseau Onis-Sud au mois d'avril. Vous avez commencé votre carrière d'écrivain avec des livres pour adultes, romans policiers, fantastiques et érotiques. Vous écrivez maintenant pour la jeunesse et surtout pour les adolescents. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a conduit à ce changement de public et quelles incidences cela a sur votre travail d'écriture?
Oui, de manière peu originale, je suis passée de romans policiers ou fantastiques pour adultes à de la littérature jeunesse, eh bien quand je suis devenue maman, et plus particulièrement quand ma fille a eu 8 ans et que j'ai eu envie de lui écrire une histoire. Donc j'ai découvert la littérature jeunesse et surtout le public jeunesse que j'ai trouvé très très enrichissant. Et je n'ai pas du tout eu envie de revenir en adulte. Alors, c'est vrai qu'avec la littérature adolescente, je gagne à tous les coups parce que j'ai le public jeunesse et je peux écrire quasiment à la manière d'un roman adulte.
Cette année, dans le réseau des bibliothèques, nous mettons à l'honneur les éditions Thierry Magnier, qui est un de vos principaux éditeurs avec les éditions Lily Jeunesse. Vous avez ainsi publié chez Thierry Magnier entre 2017 et 2025 10 romans pour grands adolescents et 2 romans dans la collection Petite Poche, qui sont des romans courts pour un public plus jeune. Parmi vos romans pour adolescents, 5 se situent en Amérique du Nord, 7 jours pour survivre, Sauvage, le dernier sur la plaine, Keep Hope, et Dog, D-O-G. Et un se situe en Amérique du Sud, La gardienne de la forêt, qui est paru en 2023. Ils ont en commun le sujet des autochtones, Dernier chef Comanche, pensionnat pour les enfants autochtones au Canada, enlèvement de jeunes filles autochtones également au Canada, au Québec. Puis avec La gardienne de la forêt, c'est le combat pour préserver la forêt, le peuple, la culture en Amérique du Sud qui est en jeu. Qu'est-ce qui explique ces choix?
Alors, j'ai écrit mon premier roman qui parle d'autochtones, donc 7 jours pour survivre, qui a été publié chez Thierry Magnier. J'ai commencé à l'écrire en août 2014. En fait, en août 2014, j'ai voulu retaper la cabane de mon jardin pour en faire mon bureau d'écrivain. Et c'est en clouant les planches de cette cabane que d'un seul coup, je me suis imaginée dans le Grand Nord du Québec, un endroit que je ne connaissais pas, dans la peau d'une jeune Amérindienne de 13 ans. Et en fait, j'ai très vite lâché mon marteau pour aller chercher un carnet et un stylo. Et j'ai commencé à écrire l'histoire de Nita Rivière, qui se fait enlever à Montréal et qui se réveille dans une cabane perdue au milieu de la forêt québécoise. Et donc, elle a 7 jours pour survivre là-bas. Et en fait, ce récit m'a obligée, évidemment, à faire des recherches sur les Amérindiens. Et en faisant ces recherches, je suis tombée sur le scandale des femmes autochtones disparues que j'ai intégré à mon récit. Mais je suis aussi tombée sur le scandale des pensionnats et tout de suite, ça m'a donné envie d'enchaîner sur un autre roman en me disant que oui, ça pourrait être intéressant d'écrire l'histoire de 2 jeunes garçons qui s'échappent d'un pensionnat. Voilà, donc en fait ça s'est un peu enchaîné tout seul et je me suis passionnée pour ces peuples autochtones puisque j'ai écrit ensuite Le Dernier sur la plaine, Keep Hope qui parle également des autochtones et La gardienne de la forêt qui parle donc des peuples autochtones mais plutôt d'Amérique du Sud. Voilà, donc c'est une passion qui ne passe pas et qui est arrivée un petit peu par hasard, les lois de l'imaginaire, en retapant la cabane de mon jardin.
Les cultures autochtones, fortes de leur lien avec les ressources naturelles et la terre, mais plus globalement la nature, l'écologie, le combat pour préserver cette nature, sont des thèmes que vous abordez à plusieurs reprises. Ils sont présents, peu importe le genre de vos romans d'ailleurs. Ce sont des sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur.
Alors c'est vrai que les thématiques qu'on retrouve, les deux thématiques centrales qu'on retrouve dans mes romans, je pense que ce sont l'adaptation et la survie. Voilà, c'est les deux thématiques centrales. Je pense qu'elles découlent effectivement de ma manière de penser le monde, de ma manière de mon éco-anxiété aussi. Je m'inquiète effectivement pour le futur de la planète, mais le futur de nos enfants. Peut-être que je suis en train d'écrire de plus en plus des romans engagés. Alors, au départ, c'est pas vraiment un axe. Je ne me dis pas que je vais dénoncer quelque chose, même si l'idée peut me traverser en cours de route. Mais ces histoires, inspirées de faits réels, c'est vrai, partent souvent d'un choc. Quelque chose que je lis dans la presse, par exemple, je me sens bouleversée et je recycle mes émotions en tissant un récit. Un récit avec souvent un désir profond de réparation. Donc un désir de réparation qui peut effectivement être destiné à ceux qui ont souffert, donc les autochtones, à la planète, ou peut-être simplement un désir de réparation par l'écriture, par exemple, personnelle. Voilà, donc il y a vraiment ces thématiques-là de réparation, de survie et d'adaptation, effectivement, dans mes romans.
Vous avez écrit des romans fantastiques d'anticipation, d'abord pour adultes, puis pour adolescents, la série Les Nuées notamment. Vous écrivez des romans sociaux, des thrillers, et dernièrement une new romance, Ash and Rose. Vous ne vous enfermez donc pas dans un genre, mais y a-t-il un point commun entre vos romans ?
Alors effectivement, on peut dire que tous mes romans sont des thrillers, donc thrillers d'anticipation, thriller écologique, thriller historique ou thriller policier. On va retrouver toujours le thriller, je pense, au départ. Donc le choix du genre, en fait, m'importe peu. Moi, c'est vraiment le sujet, la thématique qui va donner un axe à mon roman et qui va définir le genre de mon roman. Je ne me dis pas que je vais écrire un thriller historique. Je vais écrire un thriller historique parce que je choisis d'écrire une histoire sur les pensionnats pour autochtones au Québec.
Je suppose, en tout cas, à la lecture de vos romans, cela semble assez évident que vous réalisez un travail de documentation. Est-ce également le cas pour vos romans d'anticipation ? Est-ce que c'est un travail qui soutient votre écriture ?
Oui, il y a un gros travail de recherche pour mes romans historiques, mais pour tous mes romans en général, et effectivement pour la duologie d'anticipation qui s'intitule Les Nuées. Il y a eu énormément de recherches pour la crédibilité du roman. J'ai pu contacter une personne de l'équipe de Thomas Pesquet, c'était à l'époque du confinement, qui a répondu à mes questions pour que la vie des astronautes soit crédible. Et effectivement, j'ai à cœur, à chaque fois que j'écris un roman, de croire moi-même en ce que j'écris pour que le lecteur puisse croire aussi à cette histoire. Voilà, donc moi, il faut que j'y croie pour que le lecteur y croie. Donc effectivement, ça me demande beaucoup de recherche et en fait, ces recherches nourrissent évidemment le récit.
Dans la collection Petite Poche, toujours chez Thierry Magnier, les romans sont très courts et forts. Les thèmes que vous y abordez sont, dans les coquelicots de Claude Monet, la maladie d'un enfant atteint de leucémie, et dans La Lettre de Sacha, le déracinement. Comment abordez-vous l'écriture de ces textes ?
Pour ces deux textes publiés dans La Petite Poche, donc les coquelicots de Claude Monet et La Lettre de Sacha, ces deux textes, en fait, sont partis de rencontres scolaires. À chaque fois, j'ai m'est arrivé quelque chose en rencontre scolaire. Donc pour le premier texte, Les Coquelicots de Claude Monet, ça remonte à une dizaine d'années. J'avais fait des rencontres scolaires en CM2 pour un petit roman qui s'appelle Silence. Et je devais faire des dédicaces à la fin de la séance. Et il y avait un enfant qui n'était pas là. Donc la maîtresse me dit que cet enfant est malade, il a une leucémie, il est à l'hôpital, donc je dois lui faire une dédicace. Et en fait, c'était vendredi après-midi, donc je rentre chez moi avec cette idée absolument insupportable qu'un enfant de CM2 est à l'hôpital avec une leucémie. Et j'ai envie d'écrire dans le week-end un récit de guérison. Donc voilà, pendant 2-3 jours, j'écris un récit de guérison pour cet enfant. Et je l'envoie plus tard à la maîtresse qui fait passer le texte à l'enfant. Et donc l'enfant est très très content que je lui ai envoyé ce texte-là. Et donc je reste en contact avec la professeure qui... un an plus tard, me dit que l'enfant a guéri. Évidemment, c'est pas du tout grâce à moi, c'est bien sûr grâce à la science. Mais en tout cas, voilà, c'était quelque chose de très fort au départ sur une rencontre scolaire. Et en fait, la lettre de Sacha, c'était amusant. C'était il y a 2 ans, j'étais à Sarlat, en classe de 6e. Je parlais de l'histoire des Coquelicots de Claude Monet. Et un petit Ukrainien vient me voir à la fin de la rencontre en me disant « Vous avez raconté l'histoire d'Ilan pour les Coquelicots de Claude Monet. Eh ben moi, je veux que vous racontiez mon histoire pour ce déracinement que j'ai vécu, ce parcours que j'ai vécu avec ma famille. Il faut que vous racontiez cela. » Et donc... j'ai rencontré sa maman. Sacha m'a écrit plusieurs fois ce qu'il avait envie de dire. Et ensuite, il a fallu énormément travailler parce qu'effectivement, ces petits textes, même s'ils sont très très courts, je trouve sont difficiles à écrire parce que il faut que rien ne dépasse. Voilà, faut il y a un nombre de mots à écrire. On peut pas dépasser ce nombre de mots et il faut que ce soit très concentré. Donc, je trouve que c'est pas si facile que ça. C'est un exercice que je fais rarement, mais qui part toujours finalement de la rencontre, d'une rencontre scolaire. Donc je me dis peut-être que les prochains partiront aussi du témoignage d'un enfant. Dans la collection La Petite Poche, ça sera que ça, des témoignages d'enfants, pourquoi pas.
J'en profite pour vous demander si vous avez de futurs projets. Est-ce que vous, pour l'instant, vous travaillez sur un nouveau roman?
Alors, je suis en train de terminer un roman qui est une suite, d'une certaine manière, de mon roman Le Dernier sur la Plaine. Ce roman s'appelle La Part du Vent. Il sortira en août prochain aux éditions Thierry Magnier et il se passera dans les années 30 aux États-Unis. Et ça parlera en fait d'une catastrophe écologique qu'il y a eu à cette période-là, qu'on a appelée le Dust Bowl, donc une région entière qui a été laminée par des vents chargés de poussière. Et voilà, vous en saurez plus quand ce roman paraîtra l'été prochain.
Oh, c'est une bonne nouvelle, donc on va attendre patiemment le mois d'août pour voir lire la suite du dernier dans la plaine. Et d'ici là, on va pouvoir le lire, le découvrir ou le relire. Et est-ce que vous pouvez aussi nous parler, parce que vous ne vous arrêtez pas à l'écriture, vos histoires vivent aussi grâce à des mises en voix accompagnées de musique, d'illustrations. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que vous êtes sur Onis Sud. Pour quelles raisons faites-vous ces adaptations à voix haute? Comment est-ce que c'est né et qu'est-ce que vous en... Comment vous le vivez? Qu'est-ce que vous en retirez?
Alors au départ, pour moi, l'écriture est un cri silencieux, un petit peu comme Marguerite Duras. Au départ, si j'écrivais, c'est que je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas dire ce que j'avais à dire à voix haute. Et à un moment donné, donc quand j'ai commencé à écrire pour la jeunesse, donc mon premier roman, une série de romans, s'intitulait Silence, donc un personnage qui correspond bien pour moi au personnage romanesque, puisque le personnage romanesque ne peut pas parler à voix haute. Donc c'était toute l'histoire de ce personnage qui n'arrivait pas à dire. Et à un moment donné, comme l'illustratrice était bassiste, je me suis dit tiens, ça serait amusant de faire de la musique et de faire chanter silence. Et en fait, ce projet nous a emmenés assez loin, puisqu'on a eu un groupe avec un contrebassiste, un guitariste. On a même eu un metteur en scène, des costumes. On a fait tourner ce projet pas mal de fois. Et on s'est beaucoup amusé avec ça. Et en fait, j'ai jamais eu envie d'arrêter ensuite de faire des mises en voix. Donc maintenant, il y a des concerts dessinés de mes derniers romans, donc le dernier sur la plaine, Sauvage, H et Rose. Et je travaille tout le temps avec le même guitariste qui s'appelle Hectory. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, eh ben, il faudra venir nous voir en spectacle.
Eh bien, c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer et merci pour la richesse de cet échange. Et nous sommes réellement heureux de votre présence dans le réseau des bibliothèques Onis-Sud. Merci encore Nathalie Bernard.
À présent, place à une compagnie qui ne ressemble à aucune autre. Fraîchement sortie de résidence sur le territoire d'Onis-Sud, la compagnie Lorée du Bois proposait le 28 mars dernier un spectacle à la fois comique et baroque, auquel Héloïse, tu as pu assister.
Imagine que la biche soit poursuivie par des sangliers, eux-mêmes pourchassés par des braconniers, eux-mêmes pourchassés par des chasseurs, et elle vient se réfugier dans mon sac de couchage, et quel bras pourra tirer le cerf ? Le cerf arrive, il défonce la tente avec ses cornes pour protéger sa femelle. Ça réveille le contrôle, il y a qu'est-ce qui se passe ?
Je lui pète sa gueule, moi, au cerf ! Et à sa bichette ! Et aux sangliers, aux chasseurs, aux braconniers ! Je leur pète la tronche à tous ces cons qui font chier la nuit pendant que je dors !
Moi, je suis Aurélien Chauveau, je suis comédien, je fais partie du spectacle Claquettes, sangliers et châtiment. Ce mot est très important car il définit l'aboutissement de cette pièce.
Ça finit par un châtiment ?
Pas qu'un.
Je joue Neuville dans Claquettes, sangliers et châtiment. C'est un jeune homme un peu geek sur les bords. Et qui s'entraîne pour devenir champion de mots fléchés avec son ami Antonin.
Allez, bout de bois, petit bout. Modèle réduit. Je crois qu'on tient le bon bout.
Ouais. Pour ma part, je suis Raphaël Lemauve, co-auteur comme Aurélien et Nicolas d'un tiers du texte et comédien sur ce texte.
On l'appelle le phasme.
La scénographe régisseuse, Anne, a intégré récemment l'équipe. Et vous, Raphaël, le phasme, vous jouez Gontran, le cousin perturbateur de ce championnat de mots fléchés au camping de la Bourboule. Quelle est l'origine de votre collaboration ?
On était tous les trois sur une pièce Porte de Montreuil. On s'est tellement marré à monter cette pièce. Raphaël a les mises en scène et sur scène Aurélien et moi-même, qu'on a décidé de créer notre propre pièce. En partant de cet univers-là, mais en partant dans nos délires à nous.
Rappel à toutes les équipes du championnat, les dossards sont à retirer à partir de demain, 10h, à l'accueil de votre camping préféré.
La Bourboule, est-ce que c'est votre destination de rêve ?
Écoutez, je vends la Bourboule à quiconque a envie de passer un excellent moment en vacances. Je n'y suis moi-même jamais allé, mais je fantasme la Bourboule, voilà.
Nous avons recueilli les premières impressions des spectateurs.
Très fier d'y avoir participé en tant que bibliothèque municipale de Landrey, ainsi que ses habitants, et même les plus petits étaient là.
C'était très bien, comme la première fois qu'on les avait vus, et on s'est dit, Gertrude, nous.
Effectivement, il y a un personnage mystérieux. Dites-moi, qui est Gertrude ?
Il faudra venir voir le spectacle pour savoir qui est Gertrude.
Mais alors, c'est quoi Claquettes, sangliers et châtiments ?
Du n'importe quoi. Du grand n'importe quoi.
On on poursuit cette émission avec notre Zoom du jour. Et aujourd'hui, on s'intéresse à une structure incontournable du territoire, le comptoir local. Alors, plus qu'un simple office de tourisme, le comptoir local, c'est un véritable point de rencontre pour découvrir et faire vivre le territoire de l'Aunis Marais Poitevin. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Marie Chouc, chargée de communication à l'office de tourisme Aunis Marais Poitevin. Bonjour Marie.
Bonjour Guillaume.
Alors Marie, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le comptoir local, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu son rôle et sa mission ?
Oui, tout à fait. Donc, au sein de l'office de tourisme Aunis Marais Poitevin, qui représente 44 communes sur un territoire rural qui s'étend sur deux communautés de communes, Aunis Atlantique et Aunis Sud, le comptoir local, en fait, c'est la marque territoriale qui a été créée en 2021 par l'office de tourisme Aunis Marais Poitevin. Elle a pour objectif de donner du sens à toutes nos actions, de trouver des solutions pour le tourisme rural et de renforcer le lien qu'on entretient avec les habitants et les locaux sur le territoire.
Et donc, le comptoir local a récemment déposé sa marque.
Oui, tout à fait. Elle a été déposée l'été dernier. Alors, tout au long de l'année, hein, notre équipe travaille à la promotion touristique du territoire, à l'accueil, à l'information du public, à la mise en réseau des acteurs locaux et à l'animation du territoire. Et au travers cette marque, l'idée, c'était vraiment d'apporter une dimension nouvelle pour valoriser les richesses de notre territoire Aunis Marais Poitevin. Donc, la marque, elle répond à plusieurs volontés. Nous positionner comme étant une entité référente pour la diffusion de l'information touristique aux yeux des visiteurs, des habitants et des partenaires, de valoriser l'économie locale, les circuits courts, les savoir-faire et les initiatives du territoire, de sensibiliser le grand public à la préservation de l'environnement et de mettre en valeur les acteurs engagés dans une démarche éco-responsable. C'est d'ailleurs une nouveauté que je vous invite à découvrir dans notre prochaine Onisette qui parle du territoire et également sur notre site internet.
Et du coup, le comptoir local, c'est pas seulement une porte ouverte au tourisme, c'est aussi un acteur engagé pour les habitants. Et comment justement vous engagez auprès de ceux qui vivent toute l'année sur le territoire ?
Alors, on propose vraiment des actions très concrètes, hein, notamment de nombreux services à destination des habitants, tels que la billetterie pour des manifestations, le Surgerbrasse Festival ou d'autres festivals, la recherche des cartes de bus pour les transports Nouvelle-Aquitaine, la réalisation des cartes de pêche dans notre comptoir local à Maran. Nous renseignons toutes les manifestations du territoire que les associations nous envoient sur la page agenda de notre site internet, qui remonte également sur les applications intramuros des villages. On valorise tous les artistes locaux dans notre espace d'exposition au comptoir local à Surgère pour rendre accessible la culture à tous, en partenariat avec la microfolie de la ville de Surgère. Dans nos boutiques sont valorisés les producteurs et artisans d'Aunis Marais Poitevin, notamment avec les circuits courts. On valorise également l'économie circulaire avec tout ce que propose l'atelier Cyclab. Et nous avons mis en place plusieurs partenariats avec Au Miel Marsay, par exemple, pour récupérer et revaloriser les bocaux en verre. Et avec Ecomer pour le recyclage des bouchons en Liège.
Bon, on voit que vous êtes très actifs, en tout cas, sur le territoire. Parlons maintenant des temps forts à venir, puisqu'il y a pas mal de choses qui vont se passer là au comptoir local. Et quelles sont les animations prévues justement pour la saison 2025 ? Est-ce qu'il y a des nouveautés aussi qui vont arriver ?
Alors tout à fait, en plus des traditionnelles animations estivales telles que les visites de ferme ou la pêche à l'écrevisse, à partir de cette année, nous avons mis en place les nouvelles expériences locales. Alors elles sont destinées aux habitants et aux visiteurs et se déroulent tout au long de l'année. Ce sont des expériences immersives et authentiques, profondément ancrées dans le territoire. Elles invitent les participants à vraiment expérimenter le do it yourself, à être plutôt acteur qu'observateur, à mettre la main à la pâte et à vraiment se plonger dans un savoir-faire local et singulier. Donc en partenariat avec les artisans, les producteurs et les artistes, le comptoir local met en lumière des gens passionnés qui ont à cœur de transmettre leur métier, leur savoir-faire. Ce sont des rencontres privilégiées en petits comités où les participants vont vivre des moments uniques et partager des expériences enrichissantes. Il y aura plusieurs thématiques autour de l'artisanat, de l'art, telles que la linogravure, le vitrail, la vannerie, autour du jardinage également et de la nature avec la découverte de l'apiculture, la visite d'un rucher, faire son potager bio avec une maraîchère, enfin voilà, tout ça.
Bon, on a hâte de découvrir ça en tout cas. Est-ce qu'il y a déjà des premières dates pour ces ateliers créatifs ?
Oui, tout à fait. Donc en fait, ce sont vraiment des ateliers qui auront lieu toute l'année, donc dès le mois d'avril et jusqu'au mois de novembre quasiment, il y a tout un programme.
Bon, toute la saison finalement. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver maintenant pour retrouver justement les prochaines dates?
Alors, pour nous retrouver, vous pouvez nous rendre visite dans nos deux comptoirs locaux qui sont ouverts à l'année, à Surgères au 5 rue Berceau et à Maran au 1 place Ernest Cognac. Tout le programme des animations et l'agenda des manifestations sont à retrouver sur notre site internet www.onis-marais-poitevin.com. Et pour ne rien rater de l'actualité locale, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook ou notre compte Instagram et à vous inscrire à notre newsletter, Les Brèves du Comptoir.
Super, bah merci beaucoup Marie en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci Guillaume.
On termine cette émission avec notre agenda culturel des sorties à venir sur Onis Sud. Renaud, c'est à toi.
Commençons l'agenda de printemps avec Nanomusée Arts et Sciences, présent au 4 depuis le 19 mars et ce jusqu'au 19 avril. Tous les mercredis et samedis aux horaires d'ouverture de la bibliothèque d'Aigrefeuille d'Onis. Les œuvres du Nanomusée sont issues de la rencontre entre les chercheurs de La Rochelle Université et des artistes contemporains. 6 modules offrent une expérience multisensorielle, ludique et interactive. Un peu de musique maintenant. L'Orchestre d'Harmonie de Surgères et le Conservatoire de Musique Onis Sud vous donnent rendez-vous le samedi 12 avril pour une soirée exceptionnelle au Castle Park. Dès 18h30, plongez dans l'ambiance avec une initiation à la danse swing. À 20h30, place au bal-concert avec le trio vocal The Swingbirds, accompagné par l'Orchestre d'Harmonie, pour une soirée qui va faire vibrer Surgères. L'entrée est à 5€, réservation en ligne sur onis-sud.fr. Dans le cadre de la programmation Entre les lignes autour de la littérature jeunesse, le réseau des bibliothèques Onis-Sud accueille cette année deux autrices publiées aux éditions Thierry Magnier. Le 16 avril, la mise en voie du roman Sauvage de et par Nathalie Bernard, accompagnée de la comédienne Adeline Dété et sur la musique d'accompagnement de Hectory. Et du 4 au 7 juin, l'autrice illustratrice Emmanuelle Houdard animera des ateliers autour de ses albums Pilourcine. Poursuivons avec l'inauguration de la saison 2025 à la Villa Gallo-Romaine. Vendredi 18 avril, de 18h à 20h, le site archéologique à Saint-Saturnin-du-Bois inaugure la saison 2025 avec la présence exceptionnelle du laboratoire Priae. Les trésors du site archéologique seront numérisés en direct. Mais ce n'est pas tout. L'artiste Dominique Etna-Corbal sera de nouveau présent pour l'installation de sa sculpture Se cultiver. Une nouveauté cette année, des moutons d'Ouessant seront accueillis dans le cadre de la mise en place de l'éco-pâturage sur le site avec Berger Maritime. Vous pourrez rencontrer ces nouveaux pensionnaires tout en visitant la Villa Gallo-Romaine à Saint-Saturnin-du-Bois. Elle ouvrira ses portes au public du 22 au 30 avril de 10h à 12h et de 14h à 17h30 pour des ateliers autour de l'artisanat et de l'archéologie ainsi que des visites guidées. N'hésitez pas à réserver vos places auprès du comptoir local. Dans le cadre de la programmation La Science Affuse du réseau des bibliothèques consacré en 2025 à la cartographie, nous vous invitons à partager. Le 26 avril 2025 à Chambon-Gard, une rando cartographique aura lieu, le bocage dans tous ses états avec Thibaut Preux, maître de conférence en géographie à l'Université de Poitiers. En partenariat avec la bibliothèque de Chambon, l'association Bon Champ Bonne Haie et le service environnement de la CDC Onis Sud. Le 25 mai 2025, à Genouillé, vous pourrez participer à une balade naturaliste au bois de la Bastière. À nouveau un peu de musique, le groupe Hollywood Bazar, composé de Vincent Michaud au chant, de Grégory Boutineau au clavier et Pierrick Crosnier à la batterie, se produira le vendredi 9 mai à la salle des fêtes de Genouillé. Hollywood Bazar, c'est un univers original qui se sert de l'actualité pour bâtir de façon imagée des chansons ancrées dans leur temps. Retour au site archéologique de Saint-Saturnin-du-Bois avec les rendez-vous au jardin le dimanche 8 juin, à ne pas manquer. Et pour finir cet agenda, le prix des lecteurs du réseau Onis Sud. Les 5 livres en lice sont empruntables dans les bibliothèques du réseau et vous avez jusqu'à fin octobre pour les lire et voter pour votre préféré.
L'émission touche à sa fin. Un grand merci à Nathalie Bernard, à la compagnie Laurée Dubois et à Marie Chouk pour ces beaux échanges. On vous souhaite de belles semaines, riches en découvertes et en culture sur Onis Sud. Et on vous rappelle que si vous voulez nous réécouter, vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast sur lnfm.com et sur le site de la communauté de communes onis-sud.fr. On vous dit à très vite sur La Clé des Champs. Ciao.